J'en arrive maintenant à la notion d'instrument. Thomas d'Aquin fait suite à la pensée d'Aristote et on voit bien qu'on était déjà du côté de cette question de l'instrument en distinguant usé et utilisé. Est-ce que notre monde est un monde qui croule sous les instruments? Ce qu'on a dit, hein, souvent on dit, voilà, aujourd'hui on multiplie les moyens, on ne sait plus quelles sont les fins, et puis il y a trop d'instruments. Les instruments qui s'imposent contre l'humain, à la limite, etc. En réalité, si vous regardez bien le texte que nous allons lire, la grande surprise, c'est que nous allons découvrir que le monde technologique, dans son développement, est plutôt une disparition des instruments. Et qu'on n'a pas encore vraiment de mots. On pourrait dire un appareillage, un dispositif. Le mot qu'emploie Heidegger, qui est le mot Gestell, en allemand, c'est ça qui est souvent employé. En anglais, vous avez le mot device. En français, appareil. Mais vous comprenez que, est-ce que ce sont des instruments? Quelle est la définition d'un instrument pour qu'on puisse dire encore ce sont des instruments? Là encore, je vous rappelle qu'un des enjeux de ce cours, c'est de marquer la distinction entre la techné et la technologie contemporaine. C'est-à-dire que souvent les gens vont dire, ben voilà, hein, l'homme a toujours utilisé des instruments, et voilà qu'on vous propose des instruments plus sophistiqués. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a pas à opérer de critique, c'est simplement une sophistication des instruments. Mais parler comme cela, c'est peut-être passer à côté de quelque chose qui devrait nous sauter aux yeux, c'est que l'appareil n'est pas un instrument. N'est pas à proprement parler un instrument. Si vous, pour vous le dire plus simplement, le modèle de l'instrument, c'est l'instrument de musique, après tout. Alors vous voyez bien, il y a des choses qui ne sont pas vraiment des instruments de musique, au sens où une boîte à rythme n'est pas un instrument de musique. C'est un appareil à produire de la musique, mais c'est pas, on voit bien que ce n'est pas à proprement parler un instrument de musique. Voilà ce qu'écrit Thomas d'Aquin à propos des instruments. J'ai pris deux extraits, l'un de la Somme de théologie et l'autre de la Somme contre les gentils. La notion d'instrument est très importante dans la théologie de Thomas d'Aquin, à tel point que le Christ, l'humanité du Christ est pensée comme instrument du salut, vous savez, dans la théologie de Thomas. C'est Dieu qui sauve, bien sûr. Mais Dieu sauve non pas simplement par le haut, mais par l'humanité du Christ, par le bas. C'est ça le mystère chrétien. Ce n'est pas une grâce qui est donnée simplement d'en haut, c'est une grâce qui est donnée d'en bas par cet homme qui est Dieu, mais voilà, ce Dieu, ce Verbe qui a pris l'humanité et qui est descendu plus bas que n'importe quel autre homme, qui s'est fait péché pour nous, qui a connu la mort, l'abandon de la croix, accusé comme blasphémateur, puis comme usurpateur, concurrent de César, etc. Et c'est par là que nous sommes sauvés, dit Thomas d'Aquin, dit l'Évangile. Mais cela signifie qu'il va y avoir toute une pensée de l'instrument où l'instrument, vous voyez, n'est pas du tout un appareil. Oui, c'est penser l'humanité du Christ comme instrument du salut, vous voyez bien que c'est autre chose. Vous ne pouvez pas dire c'est l'ordinateur du salut, vous voyez, non, ça ne marche pas. Mais... Qu'est-ce qu'on entend dans la notion d'instrument? Donc c'est pour ça que la notion d'instrument va être entièrement ressaisie à partir d'Aristote, vous voyez, à l'intérieur de cette théologie. Voilà ce qu'écrit Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette question du Christ comme instrument, ou encore, autre aspect, hein, de l'instrumentalité sacramentelle, j'en ai pas parlé, mais la notion de cause instrumentale chez Thomas se déploie spécialement à propos des sacrements. C'est qui communique la grâce? C'est Dieu. Oui, mais comment ça se fait alors que ce soit aussi le prêtre et l'eau du baptême? Et alors, on va toujours prendre l'exemple de la cause principale et de la cause instrumentale chez Thomas d'Aquin. Un instrument, c'est ce qui est entre les mains d'une cause supérieure et qui est capable de produire des effets qui dépassent simplement ce qu'il y a dans l'instrument. D'accord? Donc, vous voyez, qui est cause de la grâce du baptême? C'est Dieu, bien sûr, mais comme cause principale. Mais il passe par cet instrument qu'est le prêtre. Vous voyez? Et il agit à travers cet instrument. Sans cet instrument, il n'agit pas de cette façon-là. Ça, c'est très important, vous voyez? Donc, la notion d'instrumentalité est très forte. Et alors, pour Thomas d'Aquin, le modèle de l'instrument, de l'instrumentalité, ce sont les sacrements. C'est-à-dire la forme, ou plutôt la forme d'instrumentalité la plus haute, c'est l'instrumentalité sacramentaire. Alors voilà ce qu'il écrit. Il faut distinguer deux sortes de causes efficientes. La cause principale et la cause instrumentale. Ça, vous comprenez ça? Par exemple, couper un arbre, on a parlé du bûcheron. La cause principale, c'est le bûcheron. La cause instrumentale, c'est ouais, c'est la scie ou la hache, voilà. D'accord. La cause principale opère par la vertu de sa forme, dont son effet est une ressemblance. C'est ainsi que le feu, en vertu de sa chaleur, rend chaud. La cause instrumentale, elle, n'agit pas par la vertu de sa forme propre, mais seulement par le mouvement que lui imprime l'agent principal. Ça, c'est très important. La hache est capable, le couteau, disons, le couteau, on va prendre un couteau, ou le ciseau, est capable de tailler le bois jusqu'à y sculpter, par exemple, une tête de mort. Pour un exemple, elle a disparu d'ailleurs, la tête de mort n'est plus là. Pour méditer. C'est vrai. À partir d'un certain âge, on la prête gratuitement. Donc, est-ce que le couteau est capable par lui-même, est-ce que le couteau est capable d'agir par lui-même de telle sorte qu'il produit tout d'un coup une figure dans le bois? Non. C'est le couteau entre les mains habiles de l'artisan ayant un savoir-faire, vous voyez. Le couteau entre les mains de Ferdinand. Ciseau à bois, enfin bon, vous savez bien, c'est pas... la cause instrumentale, vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit, la cause instrumentale n'agit pas par la vertu de sa forme propre, mais seulement par le mouvement que lui imprime l'agent principal. Le propre d'un instrument, c'est d'être agi par un agent qui lui imprime vraiment son mode d'agir. Vous comprenez ? Le propre d'un instrument, c'est d'être manié par quelque chose qui est d'une causalité plus haute et qui lui permet de produire des choses qu'il ne ferait pas par lui-même, qui va au-delà de la nature de l'instrument lui-même, de la forme propre de l'instrument. Pourquoi est-ce que vous avez un piano, c'est un instrument, d'accord ? Il n'a pas été fait pour être juste mis, enfin pour servir de bibelot, vous avez compris. Hein. C'est ce qu'il peut faire par lui-même, le piano, c'est rien. C'est d'être un bibelot. Bon. Un chat passe sur les touches du piano, ça va faire une série de notes en cascade. Voilà. Mais quand Quand un pianiste va s'emparer du piano, quand quelqu'un va jouer du piano, Domiti par exemple, ou Radulupu, ben, je prends Radulupu, vous connaissez Radulupu? C'est un des plus grands pianistes vivants. Donc ça s'écrit Radulupu. Donc Radulupu joue du piano. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il va vous jouer du Brahms ou du Schubert. Ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, ce piano parle au fond de votre âme et qu'il devient une supplication, une allégresse. Mais vous comprenez, tout d'un coup, le piano a un effet spirituel, alors que c'est un objet matériel. Pourquoi? Parce que un esprit qui passe dans les mains de Radulupu, vous voyez, est en train de manier le piano, est en train de manier l'instrument en tant qu'instrument. Et quand vous maniez un instrument en tant qu'instrument, vous faites passer à travers lui des effets qui sont des choses que possède l'agent principal. Vous comprenez? Comment se fait-il qu'un tableau, qui est une croûte avec des... Vous voyez, va tout d'un coup nous bouleverser? En soi, il y a quoi? Il y a de la toile, il y a des pigments, il y a des liants, il y a des choses... Vous voyez, c'est que de la matière. Mais c'est passé par un esprit, comme instrument, si vous voulez, pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui vient parler à notre esprit. Vous comprenez, hein? Donc, l'effet de la cause instrumentale ne ressemble pas à l'instrument, mais à l'agent principal. Le lit ne ressemble pas à la hache, mais au projet contenu dans l'esprit de l'artisan. J'aime bien ces phrases comme ça de saint Thomas d'Aquin, c'est des phrases extraordinaires. Le lit ne ressemble pas à la hache, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au projet contenu dans l'esprit de l'artisan. Il faut dire des choses simples comme ça. Hein. Et voilà ce qu'il va dire quand même, il va nuancer ça, il va dire, mais quand même, malgré tout, le mode d'action de l'instrument, même si c'est celui qu'il a en main ne pourrait pas agir si l'instrument n'avait pas aussi telle forme. Vous comprenez, il y a aussi la forme propre de l'instrument. Ce qui permet à Nando de tailler le bois, vous voyez, s'il le fait avec ses ongles, c'est quand même beaucoup plus difficile, avec ses dents. Donc, il prend un ciseau, et c'est grâce quand même à la forme du ciseau qui prolonge sa main qu'il est capable de tailler le bois. Donc bien sûr, ça vient de lui, mais en même temps, c'est un mode opératoire qui lui est donné par l'instrument. C'est pour ça qu'il a besoin de l'instrument. Hein, le bûcheron ne coupe pas l'arbre à main nue. Il peut essayer, hein. Même en colère, oui, tranchant de la main. Non mais ça ne marche pas. Hein. Pardon ? Oui, je pense que l'arbre, oui, la brise, mais brise la main. Voilà ce que continue à dire Thomas. L'instrument a une double action, une action instrumentale selon laquelle il opère non par sa vertu propre, mais par la vertu de l'agent principal, et aussi une action propre qui lui revient en vertu de sa forme propre, comme il revient à la hache de couper en raison de son tranchant. Ah, voilà. C'est vrai que l'instrument est mu par l'agent principal, et s'il fait un lit, c'est parce que l'agent principal avait le projet de faire un lit. Vous voyez, c'est pas la hache toute seule qui peut faire un lit. Mais en même temps, l'opération qui est de trancher pour faire un lit, ça n'était possible que grâce, vous voyez, aussi à la forme de la hache. C'est pour ça que cet instrument a été conçu. Tandis qu'il lui revient de faire un lit en tant qu'elle est l'instrument de l'idée artistique. Vous voyez, il revient à la hache de couper en raison de son tranchant, c'est sa forme propre, tandis qu'il lui revient de faire un lit en tant qu'elle est l'instrument de l'idée artistique. Toutefois, elle n'accomplit son action instrumentale qu'en exerçant son action propre. C'est en coupant qu'elle fait le lit. Vous comprenez, ça c'est magnifique, parce que l'instrument a une action propre, et c'est à travers cette action propre, malgré tout, qu'il va aussi produire des effets qui dépassent sa propre forme. La hache fait le lit en coupant. le violon ou le piano produit une prière en étant violon et piano, vous voyez, mais ça dépasse, vous voyez, la causalité propre de l'instrument. D'accord ? À l'intérieur de sa propre causalité. Oui ?
On peut dire alors qu'il y a une interdépendance nécessaire ?
Bien sûr, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va, on va en parler, mais... Donc voilà comment il continue. On se sert d'un instrument en raison de sa convenance avec les faits, de telle sorte qu'il soit intermédiaire entre la cause première et les faits, les joignant, voilà, interdépendance, les joignant l'un et l'autre, et faisant ainsi que l'influence de la cause parvienne à travers lui jusqu'à l'effet. Vous comprenez ici que, dès lors, un instrument, c'est précisément quelque chose que l'on a en main, et cela suppose ce double mouvement, d'abord d'adaptation de l'homme à la forme de l'instrument, tout l'apprentissage vraiment de l'art, de telle sorte que cet instrument puisse être docile lui-même à l'idée qui est en l'homme. Donc, vous voyez, y a, quand on parlait de faire corps avec l'instrument, vous voyez, c'est ça qui est en jeu ici. Mais ça veut dire quoi, faire corps? Ça veut dire que vous-même, vous avez adapté votre âme à ce corps supplémentaire qui est l'instrument, mais que ce corps, dès lors, cet instrument devient comme votre main. Et une sorte de prolongation de votre corps. Et il s'agit vraiment là, donc, de quelque chose qui est de l'ordre du maniement. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un appareil technologique, de ce point de vue-là, est un instrument? C'est ça la question que je vous pose. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons des instruments ou est-ce que nous manquons d'instruments? C'est peut-être ça la question. Est-ce que le drame de notre époque, c'est que nous croulons sous les instruments, ou le drame de notre époque, c'est que nous sommes dépossédés de toute forme d'instrument? Vous comprenez, c'est ça qui est l'enjeu. Si vous voulez vraiment penser finement le monde contemporain, c'est pas, je vous l'ai déjà dit, en essayant de penser un être sans avoir ou en essayant de penser un homme qui serait face au monde en dehors de la technique. On a toujours une technique. On a toujours besoin d'objets. On a toujours besoin de choses environnementales pour agir sur le monde. Mais quelle est la différence? Donc l'idée, c'est pas de dire des instruments ou pas d'instruments. Mais c'est de distinguer à l'intérieur de ce qui nous est offert ce qui relève vraiment de l'instrument et ce qui relève de l'appareil. D'accord? Vous voyez la différence entre un instrument et un appareil. Alors c'est quoi la différence? Pourquoi est-ce que ça ne correspond pas à un instrument tel qu'il a été défini ici? Qu'est-ce que vous remarqueriez? Oui? C'est la main, oui, mais c'est comme la main, mais ça veut dire quoi aussi? C'est le passage par quoi? Oui?
L'agent principal n'est pas celui qui utilise l'instrument.
Effectivement. Non, l'utilisateur n'est pas l'agent principal, bien sûr. Bien sûr. L'agent principal, c'est le programmateur. L'agent principal, c'est le programmateur, la machine est déjà programmée. Et même, c'est presque l'inverse, vous avez presque une disproportion. Vous voyez, on voit bien que quand avec une toute petite flûte, vous voyez, quelqu'un fait une mélodie qui vous bouleverse, vous sentez bien que c'est lui qui est derrière, c'est un esprit qui est au-dessus et qui se saisit d'une matière, d'un matériau, d'une chose qu'il a appris, dont il a appris l'usage. Et qui va vous toucher au fond du cœur. Mais quand c'est un appareil, c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui appuie sur un bouton, et puis l'effet est disproportionné par rapport à son action, mais ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause du programme qu'il y a dedans. Donc, dans une machine, vous comprenez, hein, c'est ça la différence. Alors, j'ai employé le mot appareil, je vais employer le mot machine maintenant. Dans une machine, spécialement dans une machine électronique, ce qui va se jouer, c'est pas une simple instrumentalité. Parce que vous voyez, dans l'instrumentalité, vous avez quelque chose que vous tenez en main et qui vient prolonger et qui est mu par votre esprit. Et comme votre main. Alors que là, vous perdez la main et vous vous retrouvez dans une situation où vous déclenchez des processus qui viennent de l'esprit d'un autre. C'est-à-dire des processus qui sont d'ailleurs automatiquement, plus ils sont faciles, plus ils sont formatés, bien sûr. Vous comprenez, hein ? Et donc, dès lors, vous n'êtes plus dans une situation où vous tenez vraiment un instrument. C'est autre chose ce que fait la machine. La machine n'est pas un outil, la machine n'est pas de l'ordre de l'instrument au sens classique du terme. Vous allez me dire, hein, là encore, il faudrait voir à l'intérieur de chaque objet, on pourrait dire dans tout objet, il y a une zone d'instrumentalité et une zone d'appareillage électronique. Comme on l'avait dit à un propos sur Photoshop, vous voyez, où se situe la zone. Mais il faut bien distinguer entre les deux, et bien distinguer entre un monde malgré tout dont l'intention technologique est plutôt quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'instrumentalité. D'accord ? Même si on peut encore s'en servir en partie comme d'instrument, vous voyez, ce n'est pas le projet qu'il y a profondément derrière les appareillages technologiques. Oui ?
On pourrait aussi trouver une différence entre instrument et appareil, dans la mesure où quand on use un instrument, la finalité, j'ai l'impression que c'est plus dans un esprit de don, c'est-à-dire, par exemple, quand je joue un instrument de musique, je joue pour quelqu'un d'autre, et quand Dieu se sert du Christ, le Christ est l'instrument par lequel la grâce entre dans le monde, alors que dans l'appareil, l'utilisateur, il utilise l'appareil pour lui-même, et du coup, ça le sert lui.
Je sais pas si on peut dire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas l'investissement du savoir-faire. Et on pourrait dire que pour qu'il y ait cet investissement, il faut une forme de patience, etc. Mais je n'irai pas tout de suite vers des choses morales du type don, égoïsme. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. D'ailleurs, vous pouvez très bien vous servir d'un instrument type, couteau de boucher, être très performant pour tuer quelqu'un. Mais en même temps, non, ce n'est pas vrai, parce que c'est vrai que c'est assez facile de tuer, en fait. C'est vrai, hein. C'est vrai, franchement, Ferdinand, pour tuer quelqu'un avec le ciseau, c'est plus facile que de sculpter quelque chose, finalement.
Ça passe plus facilement, oui.
Oui, c'est ça.
Si on touche les os...
Je me demande d'ailleurs si la...
Pour bien viser, pour passer entre les côtes.
Oui. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que c'est... Bon, enfin, en même temps, je suis troublé, Éléonore, parce que vous avez un pull, vous parlez, et votre pull dit tout le temps « au revoir ». Je ne sais pas, c'est comme... S'il disait « bonjour », ça marcherait avec votre discours, mais alors, vous me parlez, en même temps, vous me dites « au revoir », donc je ne sais pas si vous me parlez, vous allez vous en aller. Ça crée... C'est bizarre. C'est la première fois que je vois un pull avec écrit « au revoir » dessus. Vous l'avez acheté, celui-là? Pardon ?
Je suis une victime du
prêt-à-porter. Ah oui, ah, ils le vendent. Ouais, c'est un pull pour dépressif quand même.
C'est une sélection naturelle.
Bah, le jour où je voudrais me suicider, vous me le prêterez, je passerai la journée avec. Bon. Alors, il va falloir que je conclue, je suis désolé, mais je ne peux pas prendre. Je prends quand même une question de Katharina parce que je veux entendre sa douce voix que j'entends si rarement.
Est-ce que ça exige un savoir-faire de produire une machine ? Ou est-ce que c'est seulement des calculs ?
Alors, c'est intéressant, hein, mais on a pu en parler, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ingénierie, il y a des ingénieurs qui ont un vrai savoir-faire, ça c'est indéniable. Mais vous pouvez aussi être l'ingénieur qui a juste pensé du côté des équations, de la mise en place du projet, et puis vous n'utilisez jamais vos mains. Vous les utilisez, mais vous n'en faites jamais usage. Et donc, c'est quand même différent. C'est pour ça qu'il faut toujours, dans ce que je suis en train de vous dire, je vous donne des mots, des distinctions, mais il faudra toujours regarder selon les réalités, hein, et pas selon les idées que je vous donne. Il y a une primauté quand même du réel, hein, sur le concept, il ne faut jamais oublier. Donc, si vous commencez à entendre mes concepts et puis que vous voulez plier le réel à la conceptualité que je vous propose, ça, c'est malheureux. En revanche, vous pouvez dire, tiens, voilà, on a distingué deux modes opératoires. Ben, peut-être dans telle chose, on peut aller vers ce mode-là, ou vers les deux d'ailleurs, vous voyez, où il y a peut-être plus de ça, plus de l'autre. Parfois, il y a des lieux qui sont mixtes. Vous comprenez, hein? Donc ça, c'est très important. Je vais juste conclure cette partie sur l'art imite la nature avec cette citation de la Divine Comédie de Dante et qui résume bien la pensée d'Aristote et combien d'ailleurs elle a prévalu jusque dans cette grande œuvre du Moyen-Âge, on pourrait dire ce couronnement. Donc on est au XIVe siècle. Voilà ce qu'écrit Dante dans un des chants de la Divine Comédie. « Si tu veux jeter les yeux sur la physique... » Vous vous rendez compte que lui, il va... Ça, c'est génial chez Dante, vous savez, parfois, il va en enfer, au purgatoire, au paradis, on lui parle de la physique d'Aristote, de Thomas d'Aquin qui lui parle, la somme de théologie. Bon, c'est un lieu vraiment... les lieux ultimes sont encore des lieux, vous voyez, où on réfléchit. C'est ça qui est étonnant. Et si tu veux jeter les yeux sur la physique, dès les premiers feuillets, tu verras qu'à son tour, la nature est le sein d'où l'art mortel du naître, qu'il la suit comme fait un élève son maître, si bien que l'art humain est petit-fils de Dieu. Voilà une phrase extraordinaire qui n'a rien à voir avec l'idée d'une emprise totale sur la nature. La nature est le sein d'où l'art humain est sorti. L'art mortel, c'est l'art des hommes. Et cet art qui imite la nature, et la nature étant elle-même l'œuvre de Dieu, on peut dire que l'art est petit-fils de Dieu. Et la fille de Dieu, c'est la nature. L'homme aussi, en tant qu'il est un être naturel, il est fils de Dieu, mais son art est petit-fils. Et c'est très beau cette image qui est une image filiale, et même, je sais pas, on n'a même pas de mot, comment on dit, petite filiale, petit filiale. Est-ce qu'il y a un adjectif? J'en sais rien, peut-être. Hein. Enfin, vous voyez la pauvreté de notre vocabulaire, malgré tout. La relation du petit-fils, et c'est très beau parce que, vous voyez, ça nous fait entrevoir que dans sa grandeur même, dans son génie même, l'art a encore une dimension d'humilité et de filiation. C'est-à-dire qu'il est d'abord en train de contempler ce qui le précède. La nature est l'auteur de la nature. Vous voyez ? Et ça, on le voit chez les plus grands génies. Les plus grands génies, je vous l'ai déjà dit, n'ont jamais été des gens qui ont prétendu faire à partir de rien. Je vous avais parlé du génie profondément filial de Mozart ou de Bach. C'est pareil. Vous voyez, Bach fait partie d'une grande famille de musiciens et il se pose à la suite de toute cette famille. Et du point de vue des formes, vous pourriez remarquer qu'il reprend des thèmes qu'on trouverait chez Couperin, qu'on trouverait chez ceux qui l'ont précédé. Mais il va ressaisir ça dans une sorte de pureté assez inouïe. De la même façon, Mozart n'invente aucune forme nouvelle. Il se place toujours en position de fils de Léopold, de Haydn, de Bach lui-même, hein, quand il va découvrir d'abord la musique de Jean Chrétien Bach et puis après de Jean-Sébastien, très tard d'ailleurs. Et il est complètement admiratif. Et c'est toujours au sein de cette admiration qu'il va être le génie qui va insuffler à ces formes pourtant communes une vitalité qu'on ne trouvait pas auparavant. Vous voyez, penser le génie non pas comme rupture, mais comme filiation. Penser l'art non pas comme titanesque, mais l'art comme la discipline du petit-fils. Voilà quelque chose qui marque la tradition antique jusqu'au Moyen-Âge. Et voilà ce qui va, d'une certaine façon, être rejeté par la modernité à partir, finalement, de quelque chose qui n'est plus le savoir-faire, mais l'apparition des sciences appliquées, dont la force est aussi une certaine forme de non seulement de, oui, de, d'efficience, mais de générosité doit être reconnue. Et on va parler de cela par la suite.